le journal de Raphaël Chelvera.
Bonjour, on connaît le vieux film de guerre quand les aigles attaquent. Dans le Jura, c'est désormais quand les buses attaquent. Mieux vaut éviter les zones où se trouve un nid. On vous éclaire dans un instant. Difficile de se passer du petit écran et pourtant, nous sommes invités à le mettre en veilleuse. La semaine sans TV démarre aujourd'hui. Diverses activités gratuites sont proposées à Delémont. L'attente après la réaction, l'équipe de Suisse de football espère pouvoir disputer les huitièmes de finale de l'Euro après son succès d'hier contre la Turquie. Les regards sont ainsi braqués sur les matchs à venir. Météo, quelques averses ou orages localement forts sont à prévoir ces prochaines heures. Demain, le temps sera instable dans une atmosphère lourde et humide. Il fera entre 18 et 23 degrés au meilleur de la journée. La piscine en plein air de Porrentruy est à nouveau fermée au public jusqu'à nouvel avis. Des problèmes liés au chlore ont été observés. Les autorités et responsables sont à pied d'œuvre pour y remédier. Ils espèrent pouvoir ouvrir les bassins très rapidement. Sportifs ou promeneurs font parfois des rencontres dont ils se passeraient volontiers sur les chemins jurassiens. Des buses s'attaquent aux passants sur certains secteurs pour protéger leur territoire alors que la période de nidification bat son plein. Nous avons reçu plusieurs témoignages et l'Office de l'environnement a confirmé ce phénomène. Le vététiste jurassien Bruno Vitali a été victime d'une attaque de ce rapace qu'il nous raconte.
J'ai reçu un gros impact sur l'arrière de la tête, donc je ne savais pas du tout ce qui se passait. J'ai tout d'abord cru que c'était plutôt un caillou qui tombait de la montagne ou quelque chose qui venait me frapper. Et puis, en reprenant mes esprits, j'ai vu qu'une buse était juste en-dessus de moi. Et ben, j'ai compris à ce moment-là qu'elle m'avait attaqué sur l'arrière de la tête. Heureusement, la moitié de ses serres était plutôt venue en impact sur le casque plutôt que sur mon crâne, ce qui m'a protégé et évité des blessures. Elle m'a attaqué une seule fois et elle a continué de rôder un petit peu en dessus de ma tête avant de se poser sur une branche. Donc à partir de ce moment-là, ben, on sait déjà quoi on a à faire et puis on peut essayer de se protéger au mieux ben, en regardant toujours l'animal en visuel et puis en essayant de ne pas revenir contre elle ou contre la zone qu'elle essaie de protéger.
L'Office de l'environnement a été alerté, notamment après plusieurs attaques dans le secteur de la Haute-Borne à Delémont. C'est un phénomène qu'il connaît bien, Michel Léoni.
L'Office de l'environnement le dit tout de suite, ces attaques sont périodiques et se déroulent en principe d'année en année, du printemps au début de l'été. Les secteurs touchés changent, les rapaces peuvent attaquer tant en forêt que dans des milieux découverts, d'après l'Office, les précisions du garde-faune cantonal Didier Hulman.
On peut préciser peut-être que les buses se sentent particulièrement menacées par les joggeurs, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Si on passe en vélo ou en marchant normalement, elles ont moins tendance à attaquer. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas le faire, mais elles ont moins tendance quand même à se sentir en danger.
Et du coup, il y a des attaques qui se sont produites de manière générale. Ça se présente comment?
C'est par surprise en général. Un oiseau, il va voler en-dessus de la menace. Et puis du coup, après, quand l'opportunité est saisie, il va foncer dessus. Soit par les serres ou alors par le bec, on peut avoir des blessures à ce niveau-là.
Didier Hulman précise que la nidification des buses intervient entre mars et mai. Avant que les petits s'envolent, il y a une période de couvaison, puis plusieurs semaines d'attente. Le garde-faune cantonal estime toutefois que l'envol de la relève des rapaces est prévu pour bientôt dans la région.
À noter que l'Office jurassien de l'environnement a affiché un panneau dans le secteur de la Haute-Borne. Il souhaite ainsi informer les promeneurs et leur suggérer d'emprunter un autre itinéraire. Se détacher du petit écran, l'objectif de la semaine sans télévision qui s'ouvre aujourd'hui. À Delémont, le service de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement propose plusieurs activités gratuites. Au menu de cette 10e édition, soirée jeux de société, entraînement urbain, visite à l'Observatoire astronomique de Vic ou encore promenade comptée. Une semaine sans télévision, en plein pendant l'Euro de football, n'est-ce pas un peu contradictoire ou même difficile à envisager? La réponse de la chargée de mission pour la semaine sans télévision, Noura El-Kouda.
C'est pas contradictoire, on va dire que c'est complémentaire. On vit dans un monde où voilà, tout le monde n'aime pas spécialement foot ou regarder tous les matchs de foot. Et puis voilà, ça permettra à certaines personnes d'aller à nos activités, à d'autres de regarder le foot et faire les deux. Je pense que voilà, c'est complémentaire. En fait, c'est un nom un peu provocateur, Semaine sans TV, qui souvent, les gens sont un peu interloqués et se disent, moi, j'aime bien regarder ma TV, etc. Mais voilà, l'idée, c'est plus de proposer une semaine en dehors du foyer, que les gens puissent se rencontrer, faire des activités nouvelles. Toute notre semaine est gratuite, donc c'est vraiment ouvert à tout. Et on a essayé de toucher un peu tout le monde. Il y a des ateliers pour les enfants, comme l'atelier de théâtre d'ombre. Il y a toute une matinée chez les pompiers, où là, c'est pour les familles, venir monter à l'échelle, etc. Donc oui, voilà, une semaine d'activités gratuites pour le plus grand nombre.
La semaine sans télévision, c'est jusqu'à dimanche. Programme complet de l'événement sur rfj.ch. La jeunesse socialiste a choisi ce week-end son nouveau cheval de bataille. Réunis en assemblée dans le canton d'Argovie, les délégués ont décidé de plancher sur une initiative intitulée « Faites payer les riches pour le changement climatique ». Le comité directeur doit encore développer le projet, mais on en connaît déjà les grandes lignes. Elle consiste à ponctionner fortement les grosses fortunes pour financer des mesures écologiques. 12 autres propositions concernant par exemple les retraites ou l'asile ont été soumises aux délégués. Pour le vice-président de la JSU, si ce projet l'a emporté, c'est en partie en raison de l'échec dans les urnes de la loi sur le CO2. Thomas Bruchet en est persuadé, les plus riches doivent passer à la caisse.
Les super riches polluent nettement plus en moyenne que le reste de la population, donc sur le plan individuel on va dire, et d'autre part, c'est ces mêmes super riches qui profitent de ce système économique actuel qui est à l'origine de la crise climatique. Et s'ajoute à cela un des grands point de débat dans cette campagne sur la loi CO2, c'est finalement que la classe moyenne, les revenus inférieurs, les revenus bas devraient passer à la caisse, se verraient imposer une charge plus lourde. C'est des arguments qui étaient pour une grande part fallacieux, n'en demeure pas moins que ces arguments ont fait mouche et que par conséquent, il est extrêmement important désormais que cette politique climatique soit également redistributive, responsabilise non pas la classe moyenne, les petits revenus qui n'y peuvent rien, mais le 1%, les personnes les plus riches.
Les jeunes socialistes veulent fixer la limite de la fortune acceptable à 100 millions de francs. Le surplus pourrait être ponctionné par l'État et investi dans des projets écologiques. Une idée radicale qu'il ne faut pas voir comme une pure provocation, selon Thomas Bruchet.
Bien entendu, quand on lance une initiative avec la jeunesse socialiste, on n'a pas de grands espoirs de gagner. Ça, c'est une évidence parce que, de façon très générale, gagner une initiative en Suisse, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Néanmoins, c'est très important pour nous de montrer comment, selon nous, il faut lutter contre la crise climatique et comment, surtout, il faut payer pour ces outils qu'on mettra en œuvre. Lancer cette initiative, c'est vraiment montrer une vision, montrer une voie pour pouvoir lutter efficacement contre cette grande menace de notre temps. Et je pense que ça, ce n'est pas une provocation, mais c'est justement un apport argumentatif, un apport de contenu extrêmement essentiel et dont on a à nouveau très besoin en ce moment, alors que finalement la politique climatique, suite au refus de la loi CO2 le 13 juin, est au point mort aujourd'hui.
Ce projet interviendra à la suite de l'initiative dite 99% de la jeunesse socialiste qui sera soumise au vote le 26 septembre. Le travail sur le nouveau texte commencera donc juste après ce scrutin. La lumière est faite sur l'avenir de la mythique patrouille des glaciers. Les différents partenaires ont présenté aujourd'hui une feuille de route et annoncent la création d'une fondation. Des tensions avaient entaché l'organisation de la course de ski alpinisme. La majeure partie de la fortune de l'association actuelle sera transférée à cette nouvelle fondation. L'édition 2022 sera mise en place par l'armée qui sera épaulée par deux comités présidés par le canton du Valais.
Vous écoutez RFJ, il est 12h23.
Sport. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo clarifient la situation sur le nombre de spectateurs autorisés. Ils ont décidé aujourd'hui de permettre à un public local d'assister aux épreuves. Les stades ne pourront pas être remplis à plus de 50% avec une limite maximale de 10 000 personnes. Les compétitions pourraient tout de même se dérouler à huis clos si les infections au Covid-19 se multiplient à nouveau. Les organisateurs ont par ailleurs annoncé des mesures supplémentaires pour les athlètes issus de pays qui ont subi un impact significatif de variants du coronavirus. Les sportifs devront notamment se faire dépister tous les jours dans la semaine qui précède leur départ pour le Japon. Tout contact avec les autres équipes durant les premiers jours seront interdits. Le comité olympique indien, qui fait partie des pays visés, a déjà crié à l'injustice. L'ancien entraîneur en chef des gymnastes du Centre régional de performance de Suisse orientale à Ville, inculpé pour abus sexuels sur enfants. 30 mois de prison, dont 10 fermes, ont été requis par le ministère public saint-gallois contre ce Hongrois de 42 ans. Il avait été arrêté en août 2019 après la plainte d'une gymnaste de 15 ans qui l'accusait de l'avoir agressé sexuellement un an plus tôt. L'accusation demande aussi l'expulsion du territoire suisse pendant 10 ans et une interdiction à vie de toute activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.
Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen.
L'équipe de Suisse de football doit désormais patienter pour savoir si elle poursuivra l'Euro ou non. Sa victoire 3-1 contre la Turquie hier lui assure la troisième place de son groupe, mais il faudra figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes pour aller en huitième de finale. En attendant d'être fixé sur son sort, la Nati a proposé hier un tout autre match et une toute autre attitude que lors de ses deux premières sorties contre le Pays de Galles et l'Italie. Notre consultant Bertrand Chauffa, ancien formateur à l'ASF, souligne la bonne réaction de l'équipe de Suisse.
Je pense que oui, dans un sens, c'est-à-dire par redoré, elle nous a donné l'image d'une équipe qui avait vraiment envie de jouer. Il y avait de l'envie, il y avait de l'attitude positive, il y avait une solidarité. On a vu les attaquants revenir, on a vu quelque chose qui correspondait bien plus à une équipe de Suisse que celle qu'on avait vue contre l'Italie. Mais il ne faut pas oublier que la Turquie n'était pas l'Italie.
Elle vous a donc pleinement rassuré, cette équipe de Suisse ?
Pleinement, oui et non, parce que techniquement, ce n'était pas extraordinaire. Tactiquement, oui, parce qu'elle a mis en place son jeu, mais en définitive, je ne peux pas dire pleinement, parce que contre des équipes plus fortes que la Turquie, on sera beaucoup plus en difficulté.
Bertrand Chauffa qui répondait à Séverine Boé. Du côté de l'Association Suisse de Football, on se réjouissait aussi de ce succès, sans non plus verser dans l'euphorie le directeur des équipes nationales, Pierluigi Tammi.
Je suis content de la réaction de l'équipe. On devait faire une réaction, la réaction il y a eu. C'est dommage que quand même un match comme ça, qu'à la fin tu as créé beaucoup d'occasions, tu n'as pas réussi à faire plus de buts parce que c'était faisable et on aurait pu encore rattraper la deuxième place. Mais on reste quand même sur la réaction positive de l'équipe. Bon, mais il faut rester positif, quand même 4 points, ça devrait être suffisant et j'espère que ça va être suffisant. Alors le bilan est fait quand on saura si on a rejoint les 8e de finale que c'était et ça reste notre premier objectif.
La troupe de Vladimir Petkovic va désormais patienter à Rome. Sa qualification dépendra donc des résultats des autres groupes. Avec 4 points, elle a tout de même de bonnes chances de figurer parmi les 4 repêchés. Une attente que l'attaquant suisse Brel Embolo aborde avec une certaine sérénité.
On sait qu'on a 4 points, d'abord il faut les avoir, les autres doivent les chercher. On reste positif, on savait qu'on voulait minimum gagner un match ou plus, on l'a fait. Maintenant, le boulot est fini. On va regarder avec c'est sûr, avec les deux yeux les autres matchs. Mais j'espère que ça va suffire à la fin et on peut se concentrer sur ce 8e.
Car oui, la qualification n'est pas encore assurée. Les calculs d'épicier seront légion jusqu'à ce que tous les matchs de poule soient disputés. Le mode d'emploi pour une qualification de la Nati avec Yann Esler.
Attendre et prier, on l'a rappelé, seuls les 4 meilleurs 3e seront qualifiés. À chaque fois que ce système a été appliqué dans des grands tournois, les équipes qui présentent un bilan similaire à celui de la Nati sont passées. Rappelons-nous du Portugal qui a fini champion d'Europe en 2016 avec 3 malheureux matchs nuls lors de la phase de poule, soit avec un point de moins que l'équipe nationale. Enfin, l'équipe de Suisse va devoir soutenir certaines équipes le temps d'un match et ça commence ce soir avec la Belgique et l'Ukraine dans les groupes B et C. Si ces deux équipes gagnent face à la Finlande et l'Autriche, la Suisse serait directement qualifiée. Mais plus précisément, voici la recette qui envoie l'équipe nationale en 8e de finale. Il faut au moins que 2 de ces résultats se réalisent. Attention, concentration. Dans le groupe B, la Finlande perd contre la Belgique ou la Russie ne bat pas le Danemark. Dans le groupe C, il n'y a pas de match nul entre l'Autriche et l'Ukraine. Dans le groupe D, la Croatie ne gagne pas contre l'Écosse ou la République tchèque perd de 3 buts contre l'Angleterre ou cette même Angleterre perd de 2 buts contre la République tchèque. Dans le groupe E, la Pologne ne bat pas la Suède ou la Pologne bat la Suède avec 2 buts de différence. Et enfin, dans le groupe de la mort, soit le groupe F, la France bat le Portugal ou le Portugal bat la France avec 2 buts d'écart. Le scénario qui verrait la Hongrie battre l'Allemagne apparaît quand même assez peu probable. Des pieds à la tête, les jours prochains feront donc chauffer la matière grise en espérant que le destin soit plutôt clément avec la Nati.
Et on connaîtra donc dès ce soir l'épilogue des groupes B et C. Dès 18h, les Pays-Bas déjà qualifiés affrontent la Macédoine du Nord. Macédoine du Nord qui sera contrainte à l'exploit et à croire un miracle pour espérer accrocher une troisième place qualificative. L'Ukraine et l'Autriche, qui ont toutes deux 3 points, s'affrontent aussi à 18h. À 21h, dans le groupe B, la Belgique qualifiée elle aussi affronte la Finlande, qui tentera d'aller chercher une qualification. Enfin, le Danemark peut encore finir troisième de ce groupe en cas de victoire sur la Russie. Et puis l'Euro est déjà fini pour l'attaquant de l'équipe de France, Ousmane Dembélé. Blessé samedi contre la Hongrie, le Barcelonais souffre d'une blessure au tendon d'un genou. Il sera indisponible pour 3 semaines minimum et va donc quitter le rassemblement des Bleus dans les prochaines heures.
Le journal de l'Euro, sur le terrain de la mobilité responsable, avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique, à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier. Volkswagen.
Météo News nous annonce le développement de nombreux cumulus sur les franches montagnes et quelques averses et orages localement forts éclatants cet après-midi avant de déborder parfois en plaine. Ce risque d'averse persistera ce soir et les températures max seront de 21 degrés à Seignelay-Légier, 25 à Moutier, 26 à Delémont et Port-en-Truit. Demain, on nous annonce des conditions humides, instables, lourdes avec un ciel changeant, alternant entre périodes nuageuses et plages ensoleillées. Il y aura quelques averses et orages qui pourront se produire en toute région, mais très certainement plutôt l'après-midi. Le mercure grimpera lui demain jusqu'à 18 degrés aux Franches-Montagnes et 23 en plaine.